Philosophie du vivant, le 20 décembre 1993 par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Joudard.
Au point de vue philosophique, après avoir revu la connaissance sensible, toucher à la vue, ou de la vue au toucher, on prend des deux ordres. Après avoir vu comment cette diversité des connaissances sensibles s'unissent dans le sens commun, il y a un lien entre ces diverses sensations. On voit ensuite le point de vue de la mémoire. On voit ensuite l'imagination et la mémoire. Comme traité de l'imagination, il y a le traité d'Aristote, il y a le traité aussi de Sartre. Il n'y en a pas textuellement, mais c'est intéressant de faire le parallélisme et de comprendre que l'imagination est le premier traité de connaissance où nous faisons certaines synthèses immanentes. Très curieux l'imagination. Et le traité d'Aristote est très intéressant dans le De Anima. Il faut le lire. Parce que c'est pas très difficile et c'est très astucieux. La connaissance sensible, la connaissance imaginative est la première connaissance que nous portons en nous depuis le point de départ jusqu'au terme. Purement immanente. Et donc ça fait comprendre comment le vivant a son autonomie première, fondamentale, par l'imagination. C'est l'imagination qui donne au vivant son autonomie. La vie végétative nous rend terriblement dépendants du milieu vital. On n'a aucune autonomie par la vie végétative. Et c'est la procréation, la génération qui manifeste comment le vivant a cependant une certaine autonomie parce qu'il est source d'un autre. Mais c'est le sommet de la vie végétative. La vie sensible par les sensations est dépendant du milieu. On ne peut pas s'isoler du milieu. Mais la vie sensible a ceci de particulier, la connaissance sensible. C'est que l'imagination va permettre au vivant d'avoir un milieu où il a l'initiative de sa connaissance et où le fruit de l'imagination, qui est l'image, il la porte en lui. Il peut donc avoir son milieu par l'imagination. Jusque-là, il n'a pas son milieu. Le milieu s'impose à lui. Tandis que par l'imagination, il se crée son milieu. C'est pour ça que le psychisme, comme on l'entend ordinairement aujourd'hui, a son fondement dans l'imagination. C'est l'imagination qui explique ce psychisme que nous portons en nous. certain milieu vital, sensible, imaginatif. Alors, ce qu'il y a de très curieux, quand on passe des connaissances sensibles aux connaissances imaginatives, c'est qu'il y a inversion par rapport au sensible propre et au sensible commun. C'est ça la grosse différence. Dans les sensibles propres, dans les sensations, je veux dire, les sensibles propres sont premiers et les sensibles communs sont seconds. Dans l'image produit de l'imagination, les sensibles communs sont premiers et les sensibles propres apparaissent relatifs aux sensibles communs. C'est très curieux, ça. Et pour les psychologues et les psychanalystes qui s'intéressent aux images par rapport à la santé, beaucoup font cette remarque que lorsqu'on est très fatigué dans nos songes, sensibles communs sont très présents quand la fatigue est très grande, dans les cauchemars. Et les sensibles propres existent très peu. Au contraire, quand on est en pleine santé, nos images dans nos rêves, puisque dans les rêves, les sensibles propres sont coupés. C'est le règne de l'imaginaire. L'imaginaire rêve dans nos rêves. De façon étonnante. Eh bien, quand on est en bonne santé, dans nos rêves, les sensibles propres reprennent une place importante. Et c'est un petit baromètre. Alors, évidemment, on ne doit pas trop écrire tous ses rêves. Je ne crois pas, je ne suis pas tellement partisan de ça. Mais les psychanalystes sont très partisans de ça. Écrivez vos rêves. Écrivez vos cauchemars. C'est très significatif et grâce à vos cauchemars, on peut pénétrer dans l'imaginaire. Or, le domaine de la psychanalyse, c'est l'imaginaire. Alors on comprend très bien que eux, ça les intéresse beaucoup de voir l'imaginaire. Mais c'est très curieux de voir ce renversement de l'ordre des sensibles propres et des sensibles communs. Étant donné que lorsque j'étudie les sensations, je fais tout de suite cette distinction entre sensibles propres et sensibles communs. Les sensibles communs conditionnent toutes nos sensations. Et ne les détermine pas. Nos sensations sont déterminées par des sensibles propres. Et l'imagination est déterminée par les sensibles communs. Et dans l'imagination, ce qu'il y a de tout à fait caractéristique, c'est le mouvement. C'est le mouvement, la grandeur, la quantité, le nombre. Analysez vos cauchemars. Toujours les sensibles communs. Vous êtes ligoté, impossibilité de bouger, et le gros chien arrive. Ou le serpent, ça dépend lesquels, ça dépend qui. Ou le brigand arrive. Et vous êtes impossible, vous ne pouvez pas bouger. Vous voyez, le repos, le mouvement, le repos violent, sensible commun. C'est très étonnant hein, de voir. La mise en lumière des sensibles communs dans tous les cauchemars. Alors je comprends très bien cette possibilité par là de voir le degré de réalisme qui apparaît soudain ou qui disparaît. L'ennemi numéro un du réalisme, c'est l'imaginaire. Oh, c'est l'ennemi numéro un. L'imaginaire notre monde. Mais ça nous isole complètement. Alors c'est pour ça qu'il faut se demander dans quelle mesure, vous voyez, les sensibles propres sont à l'origine d'une connaissance analogique. Et les images sont au point de départ d'une connaissance dialectique. Ce serait très calé de voir ça. Et ce serait très intéressant, dans l'analyse même de la dialectique, de voir comment les sensibles communs sont premiers. Alors que dans un réalisme, une connaissance réaliste, les sensibles communs sont toujours seconds. Alors il y a l'art romantique et l'art classique. Dans l'art romantique, les sensibles communs dominent. Et dans l'art réaliste, les sensibles propres dominent. L'art classique. C'est très important, les relations entre les sensations propres et l'imaginaire. Et la mémoire prolonge l'imaginaire dans le temps, la durée. Le passage de la connaissance sensible à la connaissance intellectuelle. Nous le verrons après. Ce sera la cogitative et l'estimative. On pourrait les mettre au terme de la connaissance sensible, mais je crois que c'est plus vrai de les mettre au point de départ de la connaissance intellectuelle. Parce que c'est le partage. Alors, au terme de la connaissance sensible, on aurait la cogitative, qui est une connaissance sensible, mais qui va plus loin que la connaissance imaginative et connaissance dans leur diversité. C'est une certaine unité qu'on a par rapport aux réalités qui nous conviennent. Mais c'est déjà lié avec l'affectivité. C'est pour ça qu'il ne faut pas le voir sitôt l'imagination et sitôt la mémoire. Entre deux, il y a les passions. Les passions, c'est l'éveil sensible de toute notre affectivité. Nous sommes des êtres passionnés. Tous, nous avons l'expérience de la passion. Si nous ne l'avons pas, c'est triste. C'est même désolant. Tous l'expérience de la passion qui nous entraîne plus loin qu'on voudrait. C'est le propre de la passion. La passion peut être excessive. Et c'est pour ça que même très souvent, quand on parle de passion, on ne parle que de la passion excessive, alors que c'est pas vrai. Il y a une passion qui est bonne. La passion en soi n'est pas mauvaise. C'est les stoïciens qui considèrent que la passion est mauvaise. Et parmi les passions, la colère considère ça vraiment comme quelque chose d'extrêmement mauvais. Alors qu'il y a des colères saintes. Toutes les colères ne sont pas mauvaises. Alors il y a des colères mauvaises, c'est évident. Mais il y a des colères saintes qui répondent tout simplement à certaines situations devant lesquelles il n'y a qu'un seul moyen de s'en tirer, c'est de se mettre en colère. Parce que la colère brise. Donc il y a le domaine passionnel. Le domaine passionnel, c'est l'affectivité sensible qui nous porte vers le bien sensible. Aristote ne Et le rhéteur est fait pour réveiller les gens, réveiller l'attention, arriver à persuader les gens. Or, réveiller les gens, persuader les gens, c'est l'action de la rhétorique. Et la rhétorique agit sur les passions. Bon rhéteur réveille les passions et fait que on est persuadé que ce qu'il dit est vrai. Or, il n'y a pas de vérité dans les passions. Il n'y a pas de vérité dans les sensations. Dans le domaine sensible, il n'y a pas de vérité. Mais le rhéteur se sert des passions et des connaissances sensibles en vue de la persuasion, en vue du vraisemblable. Un bon avocat ne cherche pas la vérité, il cherche le vraisemblable. C'est pour ça qu'il peut, en conscience, faire admettre n'importe quelle cause. Le tout, c'est de persuader. Arriver à persuader. Persuader les gens qu'il a raison. Mais que c'est lié un peu à une sincérité. Un véritable avocat doit être sincère. Il joue un rôle. Il joue un rôle admirablement. Le rôle du client. Il voit à tout prix qui gagne sa cause. Et il joue ça face au tribunal, face au président du tribunal. La mentalité d'avocat. Très spécial. Parce que il peut épouser des causes contradictoires. Et c'est vrai, il peut épouser des causes contradictoires. Évidemment, pas en même temps. Mais à quelques jours près. Parce que c'est uniquement le vraisemblable. Mais c'est vraiment un art particulier. Alors il se sert énormément des passions, et c'est pour ça qu'Aristote traite des passions dans la rhétorique. Alors pourquoi faut-il nous traiter des passions en philosophie du vivant? Pourquoi Thomas d'Aquin des passions en théologie? Parce que les ponts d'étudier en philosophie du vivant le rôle propre des passions, ça fait partie de l'anthropologie humaine. Il y a une affectivité sensible et passionnelle, elle existe. Et la passion être au service de très bonnes causes, d'une recherche vraie de la vérité, d'un véritable amour. Puisque la passion est humaine, elle peut être animale aussi. Hein. Parce que par les passions, on est assez proche de l'animal. Ah, c'est sûr. Il faut lire le Deïra de Sénèque qui montre comment l'être en colère est proche du chien, est proche du lion, est proche du tigre. Il montre les dents et il a envie de manger. Il faut qu'il fasse attention. Le Deïra de Sénèque, c'est très amusant à lire. Et ça fait partie de son traité de philosophie. Vous voyez, c'est très intéressant de voir que les stoïciens sont les premiers qui vraiment ont traité de la passion en philosophie. Pour mieux l'attaquer, pour mieux la rejeter. Parce que pour un stoïcien, toute passion est mauvaise. On ne peut pas éduquer les passions, elles sont mauvaises. Donc on doit les supprimer. Et c'est un mal qui est présent en nous. Alors, Thomas d'Aquin, lui, se pose la question en théologien. Est-ce que le Christ avait-il des passions? si je suis stoïcien, je dois dire que le Christ ne pouvait pas avoir de passion, parce que la passion est mauvaise. Si au contraire, je suis devant la réalité, je dois dire que le Christ était passionné. Alors, il faut savoir ce que cela représente quand on dit que le Christ était passionné. Et je crois, je ne suis pas absolument sûr parce que je n'ai pas fait l'enquête historique, mais je crois que Thomas d'Aquin est le premier à avoir fait en théologien une étude des passions. Et souvent, pour nous, c'est le moyen d'entrer dans la pensée de Thomas d'Aquin par les passions. Parce que c'est un traité facile et très intéressant. Mais quand je dialoguais avec les psychanalystes, ça m'amusait beaucoup de les faire entrer un tout petit peu dans le traité de saint Thomas sur les passions. Alors ils étaient complètement séduits. Disant, au Moyen-Âge, on parlait des passions comme ça. On connaissait si bien ce que c'était que le cœur de l'homme. Parce que saint Thomas fait une analyse magistrale des passions. Quelque chose d'extraordinaire. Alors, si vous avez le temps, lisez le traité des passions de Thomas d'Aquin. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que quand vous avez des psychanalystes, ce n'est pas mauvais de leur faire comprendre que Thomas d'Aquin a traité de la passion avec beaucoup de finesse. Donc, prima secundae, question 22 à 30. Je ne veux pas le voir avec vous entièrement. Enfin, ce serait très intéressant de voir. Il faudrait voir ça en séminaire. Simplement, je vous verrai quelques points de saint Thomas. Alors, après saint Thomas, évidemment, ça a sorti de la théologie. Et les psychologues s'intéressent aux passions. Énormément. Alors, les psychologues, c'est leur peinture. Les passions. La passion est un. Les passions en elles-mêmes est infra-humaine. Elle n'est pas humaine. Elle peut devenir humaine. Elle n'est pas en soi humaine. Mais elle n'est pas mauvaise. C'est de même sensible. Et l'affectivité sensible. Alors, je prends tout de suite avec vous pour lire au moins quelques petits passages de saint Thomas. Nous devons maintenant examiner, question 23, la différence qui existe entre les passions. Et à ce sujet, nous demanderons quatre choses. Donc la diversité des passions. Les passions du concupiscible sont-elles diverses de celles de l'irascible? Première division. Division du concupiscible et l'irascible. C'est capital, ça. Deuxièmement, l'opposition de contrariété qui existe entre les passions de l'irascible est-elle une contrariété selon le bien et le mal? Troisième question, y a-t-il une passion qui n'est pas de contraire? Quatrième article, peut-il y avoir dans la même faculté des passions d'espèces différentes qui ne soient pas contraires entre elles? Alors, n'oublions pas que c'est un traité de théologie. Et je vous ai dit pourquoi saint Thomas veut savoir si dans le Christ il y a des passions ou pas. C'est quand même très intéressant. Parce que saint Thomas se trouve devant toute une série de théologiens, de pères de l'Église qui n'ont pas accepté les passions dans saint Thomas, puisque la passion est mauvaise, si on est stoïcien. Et le stoïcisme est passé le premier chez les pères de l'Église. Alors, saint Thomas étudie ça non seulement pour le Christ, mais aussi pour nous. Est-ce qu'on peut dire que sa prima secundae chrétienne, il met les passions comme obstacle qui peut devenir très fort contre une attitude chrétienne, mais qui peut être aussi très bonne. Un chrétien, pour être un vrai chrétien, doit être passionné. Si vous n'êtes pas passionné, pas du tout, on marche sur vos pieds, c'est merveilleux, c'est étonnant, c'est le délice. Venez, si vous n'êtes absolument pas passionné, c'est très ennuyeux. C'est assez morne. N'est-ce pas ? Il n'y a pas beaucoup de relief dans notre vie. Et Aristote dira que de ne pas avoir du tout de passion, c'est un vice terrible. Parce qu'on ne sait pas plus quoi faire avec vous. On a beau vous secouer de droite et de gauche et de droite. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Il n'y a rien à en tirer. Il n'y a pas de contact. C'est par la passion qu'on a le contact. Et qu'on peut avoir contact. Or, c'est quand même important d'avoir contact au niveau de la miséricorde. Et en même temps, les passions sont terriblement individuées. Qu'est-ce que c'est que la passion comme telle ? C'est important de savoir ce qu'est la passion. La première question que Saint Thomas se pose, c'est de savoir où se situent les passions. Et il montre que les passions se situent dans la partie sensible. Donc, les passions impliquent toujours un aspect corporel. Les passions ont toujours comme sujet un aspect sensible, notre corps. Puis ensuite, il se pose la question de la diversité des passions. Alors, je vous lis cet article premier. Alors, vous savez bien, pour saint Thomas, il pose d'abord les objections. Alors, c'est intéressant de voir. Cet article, on va le voir un petit peu à fond, ensemble. C'est un très bon petit exercice. Et puis ensuite, on verra si je peux, en philosophe, assumer directement Thomas d'Aquin. C'est quand même intéressant. Là, je le lis en théologien. Et je peux me dire, derrière cette pensée théologique, est-ce qu'il y a une philosophie que je peux intégrer tout de suite ? Alors, première objection. Aristote écrit que les passions de l'âme sont suivies de joie ou de tristesse. Or, joie et tristesse sont dans le concupiscible. Les passions y sont donc toutes. Alors, vous voyez, dans les objections, c'est très intéressant d'étudier les objections de saint Thomas, parce qu'à la place d'étudier ce qu'est la passion, on ramène la passion à une propriété. C'est constamment comme ça. Et saint Thomas cherche qu'est-ce que c'est que la passion, pas seulement la propriété. Alors, vous voyez, ici, on va se servir de l'autorité d'Aristote en disant que toutes les passions sont suivies de joie ou de tristesse. Première objection, c'est la joie et la tristesse, c'est pas la passion, mais c'est la conséquence. C'est vrai, quand vous êtes joyeux, il y a quelque chose en vous qui s'épanouit. Quand vous êtes triste, vous fermez les volets. Et quand quelqu'un frappe à la porte, le volet, hein. Bon, c'est un être passionnel, joie et tristesse. Et ce n'est pas la passion, c'est la conséquence par rapport aux autres. Deuxième. deuxième objection. Donc, c'est ramener toutes les passions au concupiscible. Deuxième objection. La glose de Saint Jérôme sur Saint Matthieu, on est bien en théologie, hein, dit « Ayons la prudence dans notre raison, dans l'irascible, la haine des vices, dans le concupiscible, le désir des vertus. » Or, la haine est dans le concupiscible, comme l'amour son contraire. Une même passion se trouve donc dans le concupiscible, dans l'irascible. Alors, tout va tourner sur la haine. La haine est une passion, ça c'est sûr. Alors, la haine est-elle dans le concupiscible, est-elle dans l'irascible? Selon Saint Jérôme fait autorité. C'est un père de l'Église, on le salue. Vous voyez, c'est sûr, puisque en théologie, les pères de l'Église font autorité, pas en philosophie. On est libre en philosophie. Tandis qu'en théologie, on tient compte du patrimoine. Troisième raison. Vous voyez, la haine, c'est une passion. C'est vrai que c'est une passion, la haine. Alors, est-elle dans le concupiscible, est-elle dans l'irascible? Selon Saint Jérôme, elle est dans l'irascible. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'irascible dans la haine. Vous voyez, quelqu'un qui a de la haine, vous avez peur de lui. Pourquoi? Parce que la haine éveille la force, l'attaque. C'est jamais drôle de rencontrer quelqu'un qui a de la haine contre vous. On s'enfuit. Troisième objection, les passions et les actes diffèrent spécifiquement en raison de leur objet. Ça, c'est très intéressant. Or, les objets des passions, de l'irascible et du concupiscible, sont les mêmes, à savoir le bien et le mal. C'est donc que les passions de l'irascible et du concupiscible sont aussi les mêmes. Donc, le bien, le mal, sensible. Ça, c'est l'objet. Vous voyez comme c'est astucieux. Hein, si vous regardez l'ordre de ces trois objections, la première porte sur les propriétés, la seconde sur une passion, et la troisième sur l'objet de la passion. Donc, l'objection va de plus en plus profonde. Hein. Propriété, nature, objet. L'objet, c'est ce qui spécifie, c'est le principe, c'est la cause. C'est très très beau comme manière de regarder ça. Hein. Les trois objections. Alors, ça montre que c'est pas si commode que ça de distinguer le concupiscible de l'irascible. C'est pourtant important. Hein. Le concupiscible et l'irascible, tous les psychologues l'acceptent. C'est une sanction fondamentale. Vous voyez, chez les animaux, quoi. Donnez un sucre à un chien, vous excitez son concupiscible, il précipite dessus. Il ne vous mordra pas si vous donnez un sucre. Et au contraire, si vous lui donnez un coup de bâton, son irascible va s'éveiller, et vous allez voir ses dents. Et pour dans la vie commune aussi. L'irascible et le concupiscible, ça se voit, ça se... Alors, après les objections, saint Thomas donne toujours le 7 contrat. On est en théologie. Le 7 contrat, c'est ordinairement un argument d'autorité. Les actes de puissance diverses, comme la vision et l'audition, ne sont pas de même espèce. Or, l'irascible et le concupiscible sont deux puissances qui se partagent l'appétit. Comme nous l'avons vu plus haut. Par contre, conséquent, les passions étant des mouvements de l'appétit sensible. Vous voyez comment il définit les passions, hein? Les passions sont des mouvements, des opérations, si vous voulez, de l'appétit sensible. Ces mouvements qui sont dans l'irascible différent spécifiquement de celles qui sont dans le concupiscible. Donc on fait appel à une distinction précédente pour montrer que nécessairement il y a deux sortes de passions. Pourquoi ? Parce qu'en nous, l'appétit sensible est ou le concupiscible ou l'irascible. Donc nécessairement, il y aura la division. Mais c'est un rappel par mode d'autorité, hein. Ça ne dit rien sur la nature du concupiscible et de l'irascible. C'est uniquement dans le corps de l'article que saint Thomas va donner son argumentation. Alors voici le corps de l'article. Les passions de l'irascible ne sont pas de même espèce que celles du concupiscible. Voilà la thèse. Voilà ce que saint Thomas va montrer. Que les passions de l'irascible et les passions du concupiscible sont différentes. On ne peut pas les mettre ensemble. En effet, à puissance diverse, répondant des objets divers, il est nécessaire que les passions de ces puissances se réfèrent à des objets divers. Donc, ce qu'il faut bien comprendre ici, si on veut saisir la pensée de saint Thomas, c'est que saint Thomas montre la différence entre le point de vue des puissances. La puissance, en latin, c'est pas ses potentiae, qu'on traduit puissance en français, et qui vient proprement, et qui traduit proprement le mot dynamis grec. C'est intéressant, du reste, de voir ça. C'est le mot dynamis, c'est la faculté, c'est la capacité de la puissance. Je suis capable de faire quelque chose, c'est la puissance. C'est une qualité. Alors, en effet, à la puissance diverse, répondent des objets divers. Donc la capacité d'opérer, il y a des objets divers. Ça, c'est très important. La puissance est actuée par un objet. Et l'objet, actuant la puissance, joue le rôle de principe spécificateur de la puissance. À la puissance, à puissance diverse, répondant des objets divers, il est nécessaire que les passions de ces puissances se réfèrent à divers objets. Vous avez donc puissance, objet, passion. Qu'est-ce que c'est que la passion ? C'est donc l'opération ou l'activité vitale de la puissance sensible. Il s'agit ici de puissance sensible, déterminée par un objet sensible. Alors, c'est là, vous voyez tout de suite, et ça c'est très important de le saisir, vous voyez tout de suite la différence d'analyse que prend saint Thomas et que prennent les psychologues. Les psychologues regardent l'exercice des passions, et saint Thomas regarde la nature des passions. C'est une analyse que fait saint Thomas. On est en présence de passion, d'opération, d'activité. J'ai conscience d'être en colère. Depuis ce matin, je suis en colère. J'espère que ça ne se voit pas trop, mais je suis en colère. Allez, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a énervé, quelque chose qui n'a pas été bien, je ne me suis pas réveillé à l'heure, et j'étais en retard, c'est pas bien. Alors que je devrais donner l'exemple. Donc je suis en colère. Oui, je suis en colère de ça. Bon, j'ai conscience d'être en colère. Je peux analyser cette colère. Cette colère, elle relève de quoi ? Elle relève d'une capacité que j'ai d'être en colère, la puissance. Et puis l'objet. Je suis en colère parce que je suis en face de quelque chose que je n'aurais pas dû faire. Quelque chose qui est en dehors de mon devoir. Et pour ça que je me mets en colère. Ou parce que je suis en face d'une injustice à l'égard de quelqu'un que j'aime bien. Voir quelqu'un qui a été outragé, il était outragé. Je lui en connais, hein, parce que je voudrais remettre l'ordre. La colère pour saint Thomas, nous aurons l'occasion de le dire, c'est la passion la plus noble. Dites-vous bien ça. Hein. Si vous êtes colérique, dites-vous que c'est la passion la plus noble. C'est la passion la plus noble parce qu'elle est la plus proche de l'intelligence. La colère, c'est vouloir remettre en ordre les choses qui ne sont pas en ordre. Et on pourrait les remettre en ordre. C'est extrêmement curieux et c'est très intéressant. Les intellectuels ont ordinairement un éracine très développé. Parce qu'ils voient tout de suite les choses qui ne sont pas en ordre, les injustices. Et ils veulent, dans la mesure où ils peuvent, remettre l'ordre. Et or, nous avons tous des sensibilités différentes vis-à-vis des injustices. Il y a des gens qui ne sentent que les injustices sociales. Il y a des gens qui sentent les injustices du côté de la vérité. Pas la même chose du tout. Quand vous voyez que ceux qui devraient éclairer, qui sont les étoiles, enseignent des choses fausses, vous êtes en colère vis-à-vis du bon peuple chrétien qui ne reçoit pas la nourriture qu'il devrait recevoir. Et vous avez envie à ce moment-là de tout faire sauter. Pour rétablir l'ordre, comme la justice se généralise, on a envie de tout faire sauter. On dit, il y a ce moyen-là. Mais la colère, c'est née d'une injustice qu'on voit vis-à-vis de quelqu'un qui ne peut pas répondre, qui est incapable de répondre. Alors on veut prendre parti pour lui. Et on entre en activité par cette poussée de colère. Donc vous voyez tout de suite l'analyse. Saint Thomas analyse les passions. Donc c'est une pensée philosophique. Le philosophe analyse. Le psychologue décrit. Il n'analyse pas, il décrit. Il regarde l'exercice. Et l'exercice, cette colère provient de la cause efficiente, pas la cause formelle. La cause formelle, c'est la spécification, c'est l'objet. Donc la cause efficiente, c'est tout simplement, si je pose cela, il y aura cela. Si je retire un os de la gueule d'un chien, je sais que ce chien se mettra en colère. Vous voyez ? Ça, je le sais, mais ça ne me dit absolument pas ce que c'est que la colère. Vous voyez ? C'est tout simplement préciser la condition. Et je retire la condition. Ce chien qui mord un os, il est heureux. Il est dans la joie. Il est heureux, il est dans la joie. Il faut retirer sa joie en retirant son os. Vous avez joué avec le feu. Après, il vous étonne qu'il vous mord votre mollet parce qu'il veut retrouver son os.